Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Et voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, ce qui veut dire « le Seigneur sauve », car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Un prédicateur, un jour, se trouvait devant ces paroles un peu difficiles de l'Évangile. Vous savez, quand il faut arracher son œil, il vaut mieux rentrer borgne au royaume des cieux qu'avec ses deux yeux ou manchot. Se trouve un peu emprunté à parler devant ça. Il dit alors, il s'agit des paroles de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth était le fils de Marie et de Joseph, le charpentier. Je vais donc vous parler de Saint-Joseph. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas besoin de faire de détour pour parler de Saint-Joseph. On peut parler directement puisque c'est sa fête. Et j'aimerais revenir, je lisais récemment dans une homélie, on disait Saint-Joseph, c'est le saint des dormeurs. C'est toujours dans la nuit que des choses se passent avec lui, les songes. Il entend qu'il faut prendre Marie chez lui, il la prend, qu'il faut partir en Égypte, il part en Égypte, qu'il faut revenir à Nazareth, il y revient. Et à part ça, on est très discret sur ce qui se passe. L'iconographie aussi présentait Saint-Joseph parfois comme un vieillard distant, comme pour expliquer la chasteté de Saint-Joseph. On l'a vu comme un boudeur assoupi dans un coin de la grotte de Nazareth, très loin du lieu de l'essentiel du Christ, de la crèche de Marie. On l'a vu parfois comme père nourricier payant la pension alimentaire à Marie pour qu'elle puisse nourrir l'enfant Jésus. Quant au mari de Marie, on a été très discret là-dessus. Et je crois que cette vision de Saint-Joseph, avec tout ce que ça peut avoir de deuxième sens, est en fait un peu réductrice de la personnalité de Saint-Joseph. On aimerait voir ce mari objectif, ce père responsable, ce travailleur attentif. On aimerait voir cet homme, quoi, un vrai, un viril, qui est là et qui assume complètement la mission que le Père du Ciel lui confie. L'iconographie, à vouloir trop bien dire le mystère, parfois si mal dit l'essentiel de la vie de Saint-Joseph. Il aurait peut-être fallu avoir le scoop de l'époque. Imaginez-vous, grand massacre en Judée. Un homme risque sa vie pour sauver un nouveau-né et sa mère. Joseph de Nazareth prend la femme, Marie et l'enfant et s'enfuit de nuit pour le protéger contre ces massacres de Hérode. Donc il faudrait revenir à un certain réalisme de Saint-Joseph. Et je vous parlais tout à l'heure de Marcel Gallo, qui a été martyr à Mauthausen dans un camp de concentration. Dans un autre camp de concentration, quelques années auparavant, dans une prison en Allemagne, c'était Sartre lui-même qui, à la demande des chrétiens, avait reçu cette mission de leur faire vivre Noël de manière différente. Et comme on disait, toi tu sais écrire, puisque tu es un écrivain, dis-nous quelque chose sur Noël. Et il avait décrit comme ça Saint-Joseph, il avait décrit le tableau de l'enfant Jésus, de Marie, de manière assez lumineuse. Et puis pour Saint-Joseph, il va dire, « Et Joseph, je ne le peindrai pas, je le montrerai là avec ses deux grands yeux brillants. Car je ne sais que dire de Joseph, et Joseph ne sait que dire de lui-même. Il adore et il est heureux d'adorer, et il se sent un peu en exil. Je crois qu'il souffre un peu sans se l'avouer. Il souffre parce qu'il voit bien combien la femme qu'il aime ressemble à Dieu, combien déjà elle est du côté de Dieu. Car Dieu a éclaté comme une bombe dans l'intimité de cette famille. Jésus et Marie sont séparés pour toujours par cet incendie de clarté. Et toute la vie de Joseph, j'imagine, sera pour apprendre à accepter. Cet incendie de clarté qui semble séparer Marie et Joseph est en fait un incendie de clarté qui les unit profondément, puisque le Christ sera celui qui les mettra ensemble l'un et l'autre. Alors j'aimerais, dans l'évangile, on dit que Joseph est le juste. Qu'est-ce que ça signifie être le juste pour Saint Joseph? Quelle est cette justice dont il est question dans le visage de Saint Joseph? Eh bien, est juste celui qui correspond à Dieu, qui a mis en nous les possibilités pour réaliser la destinée à laquelle il nous appelle, cet ajustement du cœur de Joseph à tout ce que Dieu demande, à tout ce que Dieu veut. Joseph est juste non seulement parce qu'il a le souci de la loi, mais parce qu'il a le souci de cette communion avec le Père, de vivre une fidélité avec le Père. Et si Joseph ne dénonce pas Marie, ce n'est pas parce qu'il pense que Marie aurait agi de manière illégitime, mais parce qu'il comprend au fond de lui-même qu'il y a un mystère qui le dépasse, que ce qui se passe dans la Vierge Marie, eh bien, est quelque chose qui dépasse infiniment son entendement. Un peu à la manière, dit Saint Bernard de Clairvaux, que Saint Pierre dira « Ne t'approche pas de moi, je suis pécheur » quand Jésus veut le rencontrer, de la même manière que le centurion dira « Ne t'approche pas de moi », et bien de la même manière, Joseph dira « Je ne m'approche pas de ce mystère ». La justice de Joseph ou la justesse de Joseph, cet ajustement au cœur de Dieu, consiste à ne rien imaginer pour mieux recevoir l'événement dans tout le mystère qui l'entoure et dans toute la splendeur qui l'habite. Et donc il est là dans le respect absolu de cette chose-là, n'entrant pas dans ce mystère sans l'autorisation de Dieu. Et cette autorisation lui sera donnée, bien sûr, de nuit, en disant « N'aie pas peur de prendre Marie chez toi comme épouse. » Et l'enfant qu'elle porte en elle est enfanté de l'Esprit-Saint. Voilà cette vision de cette justice de Joseph qui consiste à rentrer complètement dans le plan de Dieu, à accepter complètement ce que Dieu veut. Et je crois que nous essayons de vivre ici, à Philanthropos aussi, et cette justesse de l'intelligence à l'égard de la vérité, du cœur à l'égard de l'amour, des êtres humains les uns à l'égard des autres et de l'homme à l'égard de Dieu. D'ajuster sans cesse notre comportement, notre vie au diapason du cœur de Dieu. Derrière cette idée de justice ou de justesse, il y a toujours l'idée d'un accord, de mettre cœur à cœur les choses de telle sorte que la consonance puisse transfigurer le monde en quelque sorte, en transfigurant nos vies et donner à ce monde cette visibilité du christianisme dont on parlait tout à l'heure, qui est la bonne nouvelle, vraiment. La seule bonne nouvelle, au milieu des mauvaises nouvelles que les journalistes entendent parfois, il y a une bonne nouvelle qui résonne, qui sera la même hier, aujourd'hui et à jamais. Un fils nous est donné, un rédempteur est né, le Christ est là et Joseph l'accueille et marchera avec lui. Joseph, on nous le décrit aussi dans la deuxième lecture, comme étant un digne fils d'Abraham, un croyant. Croyons contre toute espérance, allant au bout de tout. Et dans les commentaires des pères de l'Église, on nous dit que Abraham, lorsqu'il ira jusqu'à accepter de sacrifier son fils, eh bien, c'est cette certitude que Dieu est capable de ressusciter même les morts. Tout est bon dans ce plan de Dieu, tout est juste dans ce plan de Dieu. Et alors, Joseph est ce croyant. Je lisais récemment ce petit texte d'un bonhomme qui s'approche d'un prêtre et qui dit « Vous savez, mon père, moi, je suis un croyant. » Ah bon, dit le prêtre, vous avez lu l'Évangile un jour? Non, jamais. Mais vous avez peut-être lu un autre livre de la Bible, dans l'Ancien Testament, la Genèse? Non, jamais. Vous avez peut-être lu un psaume, peut-être? Non, non, pas de psaume, peut-être un texte de l'Église, d'un pape un jour, d'un saint? Ah non, non, rien du tout. Ah, dit le prêtre, alors vous n'êtes pas un croyant, vous êtes ignorant. Ce qui est assez différent, vous comprenez? Et parfois, il y a beaucoup d'incroyances qui ont le couvert en fait d'une grande ignorance. Eh bien, Joseph est le croyant. Il connaît l'essentiel, il connaît en profondeur les choses. Non pas dans la multiplicité des choses, mais dans ce mystère de Dieu dans lequel il s'enfonce avec Marie, avec Jésus, ayant au milieu d'eux, ça doit être quand même assez impressionnant, de travailler avec le Fils de Dieu, de lui apprendre à planter des clous, de l'apprendre à mettre en place des poutres, de construire des maisons. Le tecton de Nazareth, eh bien, va vivre en permanence et travailler avec le Fils de Dieu, avec Dieu lui-même, qui est son propre Fils. Apprendre à Dieu des choses, contempler dans le visage de cet enfant qui travaille avec lui et qui porte les poutres avec lui, son Dieu, son Rédempteur, son Sauveur. Vous imaginez dans quel mystère Joseph était plongé, dans le réalisme du travail quotidien, une présence qui nous met dans l'ultra-réalisme, je dirais, la réalité du monde invisible qui pénètre et qui habite le monde visible. Et donc, peut-être qu'il y a aussi pour nous à adhérer à cette, à devenir croyant. C'était le fondateur de l'Emmanuel qui un jour rencontrait quelqu'un et qui dit, vous savez, j'ai beaucoup de doutes sur la foi, j'ai beaucoup de questions qui m'habitent. Et au bout d'une heure de discussion, il lui dit, écoute, je te propose une chose, arrête de croire en tes doutes et de douter de ta foi et commence à croire en ta foi et douter de tes doutes. Il y a peut-être ce renversement à faire. Dans les apophthegmes des pères du désert, on nous dit qu'un jour, un moine illettré, Saint Pambo, va trouver un abat dans un coin du désert en disant, écoutez, moi je ne sais pas lire, je ne connais pas la parole de Dieu, vous n'auriez pas une parole à me donner par hasard? Et le père, l'abat, sort comme ça spontanément cette parole du psaume, j'ai dit, je garderai ma route sans laisser ma langue s'égarer. Très bien, merci beaucoup, dit Pambo, le frère Pambo. Et il dit, non, je ne veux pas en entendre davantage, c'est assez, dit-il, je reviendrai quand j'aurai pratiqué ce que dit ce verset. Et 18 ans plus tard, le voilà qui débarque en disant, écoutez, j'ai encore pas réussi tout à fait, je reviendrai plus tard, ne vous inquiétez pas. Il est vrai que, voyez-vous, cette parole de Dieu ne consiste pas en la multiplicité de la connaissance, mais en cette profondeur de la connaissance qui nous révèle le visage du Fils. Et finalement, la parole que Dieu nous dit, l'unique parole, c'est le visage de Jésus. Et donc Joseph est en contact permanent avec le visage du Christ. Nous ne sommes pas une religion du livre, dit encore récemment Benoît XVI dans son magnifique texte sur la parole de Dieu. Nous sommes la religion d'une personne, d'un visage, on pourrait dire, de quelqu'un, de Jésus-Christ que nous rencontrons. Que nous ne rencontrons pas. Et toute la charnière, tout le centre de notre vie chrétienne, voyez-vous, frères et sœurs, le noyau même de notre vie chrétienne, c'est Jésus. Est-ce que j'ai rencontré Jésus ou est-ce que je n'ai pas rencontré Jésus? Cette rencontre personnelle qui, comme disait Peggy, manifeste un avant ou un après dans notre vie, cette rencontre qui se fait chacun de manière unique, puisqu'il s'agit d'une rencontre d'amour, et les rencontres d'amour ne se multiplient pas dans leur unicité, elles sont chaque fois personnelles. Quand Peggy rencontre le Christ à Notre-Dame de Paris, dans cette nuit de Noël, devant le deuxième pilier, face à l'antique statue de Marie, à côté de la sacristie, et que d'un coup, il y a cette fulgurance qui le saisit. Voilà, c'est un lieu. Et d'autres jeunes qui sont ici à Philanthropos ont fait cette expérience bouleversante, cet avant et cet après d'une rencontre personnelle avec quelqu'un, Jésus, qui est là. Et la parole de Dieu, c'est en quelque sorte concentré dans le Christ. Benoît XVI va prendre cette expression d'Origène en disant qu'elle s'est rétrécie en quelque sorte dans la personne de Jésus, parce qu'en lui, lui est le Verbe et la parole, qui va dire des mots ensuite. Si la parole s'est fait chair, si le Verbe s'est fait chair, ensuite les paroles se font livres, c'est l'Écriture sainte qu'on va entendre, mais c'est essentiellement d'abord ce Verbe qui se fait chair, le christianisme. C'est quelqu'un et Joseph vivra comme croyant en contact permanent avec le Christ. Ce qui fait que Joseph est un réaliste. J'insiste beaucoup là-dessus, puisque Benoît XVI a aussi parlé de cet hyper-réalisme du chrétien. Le chrétien est un hyper-réaliste. On dit souvent que les chrétiens sont rêveurs. Je crois que c'est contraire au réalisme que d'être rêveur. Je crois que c'est contraire au réalisme d'être optimiste ou pessimiste. Je crois que c'est contraire au christianisme de se détacher de ce monde. Le chrétien a été planté dans ce monde et le Verbe s'est fait chair. Et désormais, c'est dans la charnalité de ce monde, dans la charnalité de notre corps, de notre chair, de notre humanité, que Dieu vient se révéler. Mais ce Dieu qui se révèle dans cette chair, dans cette charnalité, dans ce réalisme, dans ce rien, eh bien, c'est un Dieu qui est à la fois le transcendant, qui est le tout autre. Et donc, l'hyper-réalisme consiste à prendre en compte à la fois ce réel, ce monde qui devient parole de Dieu également, où Dieu nous parle à travers les événements et les circonstances, et puis ce Dieu que nous rencontrons dans l'intime de notre cœur, ce Dieu tout d'autre qui nous invite un jour à le rejoindre dans cette destinée splendide et ultime de la vie qui est la vie éternelle. C'est un ami drogué qui est sidéen qui me disait un jour, qui avait écrit avant de mourir 6 mois, peu importe de mourir à 3 ans, à 30 ans, 80 ans, je veux mourir plein, gorgé, rempli de l'amour de Dieu, vois-tu. Je veux mourir vivant, vivant de la vraie vie qui m'attend. Mourir vivant, voilà mon seul désir, mon seul souhait. Et ça m'a frappé, voyez-vous, parce que habituellement on meurt mort. Mourir vivant pose une question essentielle. Je ne crois pas qu'on puisse douter qu'il y a quelque chose après la mort. Ça, je crois que toute l'humanité, depuis qu'elle a été là, a toujours su qu'il y avait quelque chose après. Mais la vraie question qui se pose peut-être aujourd'hui, est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Est-ce que ce qui donne un sens à la vie donne un sens à ma mort? Est-ce qui donne un sens à mon existence aujourd'hui donne un sens à ce dernier acte de vivre que je vais poser, qui consiste à mourir ou entrer dans le jour de la naissance éternelle. Voilà. Et donc, Joseph nous introduit dans cet hyper-réalisme, j'allais dire, une école de silence, une école de patience, une école d'apprentissage, où l'atelier de Nazareth devient une pédagogie de Dieu, où le réalisme du travail manuel devient une pédagogie de l'amour de Dieu, où les choses les plus simples nous parlent des choses les plus essentielles, où derrière la monotonie du quotidien se trouve l'extraordinaire d'une présence de Dieu, d'un langage de Dieu qui rejoint l'homme. Et je pense que nous avons, nous, chrétiens, à redécouvrir cela, à redécouvrir ce réalisme, cet hyper-réalisme qui consiste à la fois à voir le monde tel qu'il est et l'accueillir tel qu'il est, mais le savoir sauvé, donc l'espérance invincible, même au bruit de la mort, et puis de savoir que le ciel est notre véritable destinée et que désormais, eh bien, tout est orienté vers cela. Le ciel n'est pas une démission de la terre. Elle nous envoie en mission. Le ciel nous envoie en mission pour que ce monde soit transformé. Et puis, un dernier point que j'aimerais relever, Saint Joseph est aussi le patron de l'Église. C'est intéressant, c'est en 1870 que Pie IX a établi la fête de Saint Joseph au 19 mars et établi Saint Joseph patron de l'Église universelle dans une situation extrêmement troublée du monde. Marx venait de sortir le premier ouvrage du Capital, les tensions sociales étaient extrêmes, l'Italie était aux portes de Rome, et on allait, quelques temps plus tard, envahir Rome malgré l'accord qui avait été conclu avec la France. La France elle-même est troublée avec la Commune, le monde est en plein changement. Et finalement, au cœur de ce grand combat du monde, voilà que le pape Pie IX va établir Joseph patron de l'Église universelle. Mais voyez-vous, je crois que Joseph, aujourd'hui, dans le combat dans lequel nous vivons, dans cette situation un peu inconnue dans laquelle nous sommes entrés avec ces révolutions, ces tensions, cette crise économique, ces cataclysmes, enfin tous ces grands événements auxquels nous assistons avec des questionnements tout à fait légitimes, et en même temps, parfois, certaines peurs ou certaines craintes, de se dire « mais n'ayez pas peur, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Joseph est un peu comme Marie, et Mgr Brincard disait un jour « elle n'était jamais prévenue, mais toujours prête ». On aime bien être prévenu et pas toujours prêt, même quand on est prévenu. Voilà, jamais prévenu, mais toujours prête à répondre immédiatement aux événements que Dieu va susciter dans sa vie, aux surprises. Imaginez, on est là, d'abord, elle est enceinte, on imagine, il avait fait le berceau à Nazareth, tout était en ordre, c'est fantastique, tout était très beau, et il y avait de la bonne layette dans le berceau, et tout d'un coup, on dit, il faut aller te recenser à Bethléem. Oh là là, alors on part comme ça, sur ce long voyage, on arrive là-bas, tout est pris, il n'y a pas de place à l'auberge, on se trouve dans une vieille étable, ensuite on nous dit qu'il y a un massacre, il faut partir en Égypte, on arrive en Égypte, étranger sur une terre, on s'installe un petit peu, au bout de quelques années on me dit bah, tu retournes à la maison maintenant, alors qu'on avait fait un petit peu, on s'était installé, il faut revenir, s'établir de nouveau là, vous voyez, comment dirais-je, ce dépaysement, cette façon d'être sans arrêt, désenraciné en quelque sorte, pour trouver des racines là où se trouve l'essentiel, là où se trouve Dieu. Alors il me semble que Saint Joseph répond admirablement aussi à ce que vous avez demandé aujourd'hui, l'urgence des temps, l'urgence de notre temps. Il y a comme une vision sur cette foi de Saint Joseph, ce réalisme mystique de Saint Joseph, la mystique n'étant pas d'avoir les yeux révulsés et d'être décollé de la terre, mais ça consiste à voir les choses à partir de l'élément fondateur de ce solstice cosmique de l'univers, qui est la Pâque du Seigneur, sa mort, sa résurrection, sa présence au milieu de nous, ce don de l'Esprit Saint qui nous est fait. Désormais, plus jamais, 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 le monde n'échappera à l'amour de Dieu. Plus jamais, 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 le monde échappera à la tendresse de Dieu. Et nous sommes appelés, nous, dans cette histoire, c'est Jacques Maritain qui avait cette idée de dire que nous ne sommes pas les coopérateurs de l'histoire, ce qui passera et ce qui pourra peut-être se conclure par un vaste échec, les textes de la fin des temps nous en parlent, mais coopérateurs de Dieu dans l'histoire, ce qui demeurera toujours. Coopérateurs de Dieu dans l'histoire veut dire participer à la façon de bâtir ce monde comme Dieu veut qu'il soit bâti. Comme Dieu veut qu'il soit bâti. Ce qui m'a frappé dans les événements du Moyen-Orient ces derniers temps, c'est que tout le monde a été pris de court et surpris. Dans la chute du mur de Berlin, ce qui m'a frappé, c'est que les gens étaient surpris, déconcertés. Mais comment ça a été possible? Et nous étions un jour avec Nicolas Michel aussi à Moscou, je crois que tu étais là, à l'école des Komsomol, l'école des jeunesses communistes, et nous avons là la palette en 90. Donc il y avait devant nous toutes ces personnes qui avaient été les apparatchiks de l'époque et qui disaient « mais comment ça a été possible ?» on est complètement déconcerté. Eh bien, je crois qu'il y a une chose qu'il faut se rendre compte, c'est que lorsqu'on bâtit un monde contre Dieu, contre le plan d'amour de Dieu, contre le mode d'emploi du bonheur que Dieu a inscrit dans les choses, nécessairement, inéluctablement, irréversiblement, les choses vont s'ébranler et se casser un jour. Et que donc revenir au plan d'amour de Dieu, au plan du bonheur de Dieu, eh bien, est la certitude de bâtir le monde. Peut-être est-ce l'aspect prophétique du christianisme qu'il faudrait redire aujourd'hui. Puis le tout dernier point qui va nous introduire dans ce que nous allons vivre maintenant, on parle du père nourricier Joseph, père nourricier de Jésus. Je vous ai dit que ce n'était pas l'image peut-être la plus lumineuse. Il y a peut-être quelque chose quand même là derrière qu'il faut retenir. C'est que Jésus va devenir l'agneau. Et Joseph a nourri l'agneau de Dieu, afin qu'il se donne à manger un jour, afin que nous puissions un jour manger l'agneau. Si Joseph s'est occupé du Christ, c'est pour que lui devienne un jour pain de vie, afin que nous puissions le recevoir. Prenez, mangez, ceci est ma chair livrée, prenez, buvez, ceci est la coupe de mon sang. Et voyez-vous, saint Augustin disait, chaque fois que nous nous communions au corps et au sang du Christ, nous devons aussi accepter ensuite d'être mangés, de devenir bon pain pour le monde. Celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie éternelle. Or, nous savons, privilégiés que nous sommes, que manger la chair et boire le sang, c'est ici à l'Eucharistie qu'on va le vivre tout à l'heure. Mais tout le monde qui ne sait pas, tous ceux qui dans le monde ne savent pas que c'est là qu'il faut venir pour goûter la vie éternelle, où pourront-ils goûter la vie éternelle? En nous mangeant nous, en goûtant le bon pain que nous sommes, en goûtant la charité que nous aurons. Mangez, buvez le sang du Christ, buvez les membres de son corps, mangez la chair de ceux qui ont communié au corps du Christ, de façon à ce que le monde goûte le bon goût de la vie éternelle, qui, au cœur de ce monde qui passe, témoigne du monde qui ne passe pas. Amen.